Bonjour. Le mois dernier, nous avions commencé à réfléchir au thème « L'homme selon le cœur de Dieu ». Et j'avais dit que pendant les deux derniers mois avant les vacances, puisque je devais venir aujourd'hui, et le mois prochain, nous finirions sur ce thème de l'homme selon le cœur de Dieu. Vous vous rappelez que nous avions lu ce texte qui parlait de la manière dont David avait été choisi pour être roi d'Israël à la place de Saül. Et aujourd'hui, nous allons voir d'autres caractéristiques, une autre caractéristique importante de l'homme que Dieu appelle un homme selon son cœur, c'est-à-dire un homme qui vit d'une manière qui lui plaît. Sans me rappeler que le mois dernier, nous avions parlé de la foi de David, de la confiance qu'il avait en Dieu, de son obéissance à la parole de Dieu. Le texte que nous venons de lire est une histoire assez extraordinaire pour la simple raison que ce n'est pas tous les jours, disons-le comme cela, qu'un roi qui s'est vu persécuté par le roi précédent décide de faire du bien à ses descendants. En général, surtout dans l'Antiquité, lorsqu'un roi prenait la place d'un autre, même si l'autre n'avait pas été son ennemi et ne l'avait pas persécuté comme Saül a persécuté David, le nouveau roi se débarrassait d'une grande partie, sinon de toute la famille du roi précédent, pour être sûr de ne pas avoir d'ennemis. Vous savez que les successions, même aujourd'hui, ne se passent pas toujours de la meilleure façon. On voit par exemple des hommes politiques succéder à d'autres et, j'emploierai l'expression familière, faire le ménage, pour bien montrer qu'avec eux c'est différent, et on le voit ça dans les entreprises souvent. Un expert comptable me disait un jour que chez les chefs d'entreprise, il n'est pas rare de voir, en France notamment, lorsqu'un nouveau chef d'entreprise arrive, qu'il se débarrasse le mieux possible des collaborateurs de son prédécesseur pour nommer ses propres collaborateurs pour bien montrer que les choses changent. Bon, les choses ne changent pas forcément parce qu'on change les hommes. Dans le cas de David, cette histoire prend plus de relief parce que l'homme dont il est parlé dans cette histoire et qui a un nom un petit peu difficile à prononcer, je dois avouer que je n'ai jamais rencontré personne qui s'appelait Méphibosheth. C'est pas un prénom très courant. Peut-être qu'au Vietnam, il y en a, je ne suis pas sûr. Il n'y a pas beaucoup de pays où on a des enfants qui s'appellent Méphibosheth. Mais bon, ce nom est un nom qui valait ce qui valait, bien sûr. C'est pas le nom qui est important, c'est le fait que Méphibosheth était le petit-fils de Saül, qui était donc le roi qui avait précédé David et qui avait persécuté David au point d'essayer de le faire mourir. La grande morale de cette histoire, de ce chapitre 9, c'est d'abord que le roi David n'a pas été poussé par Dieu à faire ce qu'il a fait. Il a fait ce qu'il a fait parce qu'il en a eu l'idée et parce qu'il a eu à cœur de faire du bien. Vous savez, il y a un texte dans la Bible, je crois que c'est dans l'épître de Jacques, oui c'est cela, Jacques chapitre 4 verset 17, où il est dit que celui qui sait le bien qu'il doit faire, celui qui connaît le bien qu'il doit faire et qui ne le fait pas commet un péché. Dans la vie chrétienne, nous sommes appelés non seulement à ne pas faire de mal, ce qui est la moindre des choses, mais nous sommes appelés également à faire du bien. Et l'une des caractéristiques de l'homme selon le cœur de Dieu, on pourrait dire de l'homme spirituel, c'est qu'il doit faire du bien. Lorsque David a décidé de faire du bien à quelqu'un de la famille de Saül, sans savoir même s'il y avait encore un rescapé de la famille, parce qu'un certain nombre de membres de la famille de Saül avaient été tués. Au moment de la mort de Saül, Saül avait été tué. Son fils aîné, Jonathan, avait été tué. et d'autres membres de la famille dans les années qui ont suivi sont morts de manière violente, avec des règlements de compte, par des règlements de compte. Mais David ne savait pas s'il y avait un survivant de la famille de Saül. Mais ce qui est important ici, c'est de voir, premièrement, que David avait connu jusque-là le succès. L'histoire qui est racontée au chapitre 9 est une histoire qui se situe vers le milieu du règne de David. David est sur le trône déjà depuis peut-être 20 ans. Quand tout d'un coup, après tous les succès qu'il a remportés, alors que son pouvoir est au summum de sa puissance et de sa gloire, David a tout d'un coup l'idée de faire du bien. Mais il ne sait pas s'il va pouvoir faire du bien à quelqu'un de la famille de Saül. David décide de faire du bien parce qu'il se souvient d'une promesse. Nous n'avons pas lu tout à l'heure parce que cela n'apparaît pas dans le texte, mais il faut savoir qu'une vingtaine d'années auparavant, avant même de monter sur le trône, David et le fils aîné de Saül, Jonathan, avaient conclu un accord entre eux. Ils avaient décidé que celui qui survivrait à l'autre ferait toujours du bien à la famille de l'autre. Mais vous savez, quand on fait des promesses, 20 ans après, en général, on les oublie. Est-ce que vous vous souvenez, il faut déjà que vous ayez 20 ans tous, je pense que la plupart ont 20 ans, est-ce que vous vous souvenez de promesses que vous avez faites il y a 20 ans ? Vous savez, même si on a une bonne mémoire, généralement on se dit, oh, ben, ce que j'ai dit il y a 20 ans, si vous avez 35 ans, il y a 20 ans que vous en aviez 15, si vous avez 30 ans, il y a 20 ans que vous en aviez 10, ou à 10 ans on ne fait pas trop de promesses. Mais vous savez, il y a une leçon là aussi. En tant que croyant, en tant que chrétien, nous nous engageons par ce que nous disons. Vous savez que pour le chrétien, nous le voyons dans l'Évangile, souvent Jésus parle de cela, et il dit que nous serons jugés par nos paroles, parce que nos paroles sont le fruit de nos pensées. Il y a toujours, et c'est aussi une leçon de cette histoire, il doit toujours y avoir chez le chrétien une unité aussi parfaite que possible entre ce qu'il dit et ce qu'il fait. D'ailleurs, il y a un certain nombre de textes dans la Bible, nous n'allons pas les lire, parce que nous n'avons pas le temps, mais vous les trouverez, notamment dans le livre des Proverbes, qui montre bien que lorsque nous nous engageons, lorsque nous faisons des promesses, ou lorsque nous faisons des vœux, comme dit la Bible, comme dit le livre des Proverbes, nous devons ne pas les oublier. David avait fait une promesse à Jonathan, et c'était lui qui survivait à l'autre, et 20 ans après peut-être même plus, il se souvient qu'il a fait une promesse. Et vous savez qu'il n'est pas toujours facile, quand nous connaissons le succès, quand tout va très bien, de nous souvenir des promesses que nous avons faites. Souvent, c'est dans les moments difficiles que nous nous souvenons des promesses comme pour nous déculpabiliser, comme pour essayer d'apaiser toute chose. Alors nous nous souvenons de ce que nous avons dit. Des fois, quand le malheur nous arrive, nous nous disons... Si j'avais fait tout ce que j'avais dit, peut-être que le Seigneur essaye de me rappeler cela. Mais ici, il ne s'agit pas de cela. Ici, David est en pleine gloire. Tout va très bien pour lui. Il est sur le trône. Tous ses ennemis ont été vaincus. Il vit vraiment un moment grandiose de sa vie. Et c'est là qu'il se souvient de sa promesse. Alors, nous l'avons lu tout à l'heure, il fait faire des recherches et on découvre qu'il y a un survivant de la famille de Saül. Il y a un survivant. Il s'appelle donc Mephibosheth. C'est un petit-fils de Saül qui vit, on pourrait dire, plutôt dans la misère. Pourquoi ? Parce que ce Mephibosheth a eu un accident quand il avait 5 ans. C'est la Bible qui le raconte au chapitre 4, verset 4 de 2 Samuel, vous le lirez. Après, 2 Samuel chapitre 4 verset 4, il nous est raconté que lorsque son père, Mephibosheth, donc le fils de Saül, a été tué, la nourrice de Mephibosheth, a pris la fuite pour protéger l'enfant, parce qu'elle avait peur qu'on cherche à tuer aussi son fils. son successeur donc, et le petit Mephibosheth avait 5 ans, et la nourrice s'étant précipitée pour prendre la fuite avec lui, elle l'a pris dans les bras, et dans sa fuite, en courant, elle l'a fait tomber, et à la suite de cette chute, semble-t-il importante, Mephibosheth est devenu boiteux. Alors, à l'âge de peut-être 25 ou 30 ans, puisqu'il est dit qu'il avait un fils, Mephibosheth voit venir chez lui un jour, je passe sur les détails, un homme qui le cherche parce que le roi veut le voir. Et nous avons vu dans le récit que Mephibosheth était assez inquiet de la raison pour laquelle le roi le cherchait, puisqu'il savait que son grand-père Saül avait cherché à tuer David. Il s'est dit peut-être que le roi essaye de terminer le travail et de tuer le dernier descendant de Saül. Alors il est arrivé tout tremblant vers David. Et lorsqu'il s'est présenté devant David, David lui a dit « N'aie pas peur. Si je t'ai fait venir, ce n'est pas pour te tuer, ce n'est pas pour te faire du mal, c'est pour te faire du bien, à cause de la promesse que j'ai faite à ton grand-père, Saül. » L'important ici, cet après-midi, c'est de comprendre que l'homme qui est selon le cœur de Dieu, l'homme qui vit selon le cœur de Dieu, l'homme qui cherche à plaire à Dieu, va toujours chercher à faire du bien. Il y a un mot que nous avons lu dans le texte tout à l'heure, je n'ai pas vu quelle était la traduction dans le texte, peut-être que notre ami peut remettre le texte du début. Le début du texte, plutôt. Voilà, c'est bon. Pour que je lui fasse du bien, au premier verset. Pour que je lui fasse du bien. Le mot qui est traduit ici, bien, par le mot bien dans cette traduction, est traduit souvent dans d'autres traductions par le mot bonté, bienveillance. C'est un mot très important dans la Bible qui est traduit également parfois par amour, compassion. L'idée qui est là, c'est que l'homme selon le cœur de Dieu, qui est le roi David maintenant, et qui peut être chacun d'entre nous, qui devrait être chacun d'entre nous, homme ou femme selon le cœur de Dieu, a dans son cœur une prédisposition à faire ce qui est bien. Une partie de notre vie, un élément important de notre vie, doit être la recherche du bien à accomplir envers les autres. Il y a un texte dans l'évangile de Luc, chapitre 6, verset 36. C'est une parole de Jésus, et Jésus dit ici à ses disciples, Luc, chapitre 6, verset 36, « Soyez pleins de bonté comme votre Père est plein de bonté. Soyez bons comme votre Père, Dieu donc, est bon. » Vous savez que souvent dans la Bible, dans la parole de Dieu, il nous est dit que nous devons prendre Dieu, Jésus, comme modèle. Dans le sermon sur la montagne, Jésus dira par exemple, vers la fin de son sermon, vers la fin de la première partie de son sermon, « Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. » Et c'est un enseignement de toute la parole de Dieu que nous devons chercher à ressembler à Dieu, à Jésus, pour être vraiment leur représentant sur cette terre. Vous savez que le chrétien est appelé à représenter Dieu sur cette terre. Nous devons être, comme dit l'apôtre Paul aux Corinthiens, des ambassadeurs de Christ sur cette terre. Le moyen que Dieu a choisi pour faire connaître sa parole, pour se faire connaître aujourd'hui sur terre, ce sont les chrétiens, ce sont les enfants de Dieu. Et tout au long de la Bible, nous voyons que Dieu veut que nous soyons à son image. Dans le récit de la Genèse, le récit de la création, nous lisons que Dieu a dit « Faisons l'homme, c'est-à-dire l'homme et la femme, l'être humain, à notre image ». Et plus tard, nous voyons que Paul dit dans la lettre aux Romains que nous sommes appelés, nous, les enfants de Dieu, à être semblables ou conformes à l'image de Jésus. certains penseront peut-être que être semblable à Jésus, c'est difficile. Oui, c'est difficile. Mais, cependant, l'Évangile, la parole de Dieu tout entière, nous appelle à chercher à ressembler à ce que Jésus a fait, à ressembler à Jésus, à apprendre à penser à Jésus et à penser comme Jésus. Paul a dit aux Philippiens que notre pensée doit être semblable à celle de Jésus, que nous devons avoir les mêmes sentiments, les mêmes pensées, la même façon de vivre. C'est le modèle qui nous a été donné. Et nous voyons ici dans notre récit de Samuel que David a été un bon exemple d'homme qui a vécu comme Dieu voulait. C'est pour cela que l'expression a été employée pour lui, d'homme selon le cœur de Dieu. La bonté, la bienveillance que David a manifestée envers Mephibosheth est tout simplement une image de la bonté et de la bienveillance que Dieu a manifestée envers nous. D'ailleurs, vous remarquerez avec moi qu'il y a un certain parallélisme entre ce que David a fait pour Mephibosheth et ce que Dieu fait pour nous. Juste une petite illustration. Nous avons lu tout à l'heure que Mephibosheth habitait dans un village qui s'appelait Lodebar. Lodebar, ça veut dire l'absence de nourriture. Nous avons vu que lorsque David l'a appelé, David lui a donné la faculté de vivre une autre vie. Il l'a fait habiter dans sa maison. Et c'est l'image aussi de ce que Dieu a fait avec chacun de nous. Qu'est-ce qu'a fait Dieu avec nous? Il nous a sortis d'une vie misérable, comme celle que vivait Mephibosheth, et nous a fait vivre dans sa maison, la maison de Dieu. Et en nous faisant vivre dans sa maison, il nous a donné le privilège, d'une certaine manière, de manger tous les jours à sa table, c'est-à-dire de nous nourrir de sa nourriture, puisqu'il est dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ce qui nous est montré ici, c'est que dans tous les détails de cette histoire, David a vraiment incarné ce que Dieu est. Il s'est montré digne de Dieu et un homme selon le cœur de Dieu, parce qu'il n'a pas cherché à faire du mal aux descendants de son ennemi, mais il a cherché à lui faire du bien à cause de la promesse qu'il avait faite. Certainement que dans son entourage, les gens se sont dit « Mais qu'est-ce que David fait ? Pourquoi est-ce qu'il fait tout ce bien ? Vous savez, pourquoi aller chercher cet homme qui vivait tranquille dans sa campagne ? Bon, bien sûr, il vivait un petit peu dans la misère, mais pourquoi aller faire venir ce boiteux, l'installer au palais, lui donner à manger à la table du roi ? Vous savez, c'est pas évident de manger à la table du roi. Est-ce que vous avez déjà mangé à la table du président de la République ? Non ? Ah bon ? Vous voyez que c'est pas facile. Est-ce que vous avez mangé à la table d'un roi déjà ? Non, c'est très difficile. Très peu de gens ont cet honneur. Eh bien, David n'a pas regardé à la condition malheureuse de Mephibosheth. Il a regardé simplement à la promesse qu'il avait faite, il y a très longtemps. Il a tenu à manifester envers Mephibosheth toute la bonté que Dieu a pour toutes ses créatures. Et nous savons aujourd'hui que le chrétien est appelé à faire preuve de ces choses-là, de ces caractéristiques-là. Nous lisons par exemple dans l'Épître aux Galates, chapitre 5, verset 22, que le fruit de l'esprit, c'est aussi la bonté, c'est aussi l'amour, c'est aussi la bienveillance. Pourquoi cela ? Parce que quand une personne vient à Jésus-Christ, lorsqu'un chrétien est né de nouveau et vit une vie nouvelle, cette capacité à manifester la bonté, l'amour, la bienveillance, lui est donnée par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, dit la parole de Dieu, vient habiter en nous et il nous donne une nouvelle nature, une nature qui vient de Dieu. Et c'est ce qui est arrivé à David, puisqu'il nous est dit un peu plus haut dans d'autres textes, notamment dans le texte que nous avions lu la dernière fois, que lorsque David a été choisi comme roi, il a reçu l'Esprit de Dieu. et que l'Esprit de Dieu a commencé à partir de ce jour-là à le conduire. À le conduire non seulement dans l'exercice de son règne, de son pouvoir royal, mais également à le conduire dans sa vie de tous les jours. C'est pourquoi la grande leçon de cette histoire est que tout enfant de Dieu, tout chrétien, peut manifester, je dirais même doit manifester, apprendre à manifester, demander à Dieu de l'aider à manifester chaque jour cette capacité à donner une image qui soit une image glorieuse de ce qu'est la vie du chrétien. Le chrétien doit vivre comme Dieu, le chrétien doit penser comme Dieu ou comme Jésus, puisque Jésus a vécu sur cette terre dans un corps humain comme nous. Le chrétien est appelé à conformer sa vie à celle qu'a vécu Jésus, même s'il le fera de manière imparfaite, parce qu'il restera un homme. Il peut, avec l'aide de l'Esprit de Dieu, apprendre à avoir de bons sentiments, comme David en a eu, non seulement envers Méphibosheth, mais envers bien d'autres personnes dans sa vie. David, nous n'avons pas le temps de le voir, peut-être nous le verrons la prochaine fois. David, tout au long de sa vie, a toujours cherché à respecter les autres, même le roi Saül, lorsqu'il le persécutait. David n'a jamais cherché à se venger, et pourtant, vous le savez, vous connaissez sans doute l'histoire de David. David a eu quelquefois l'occasion de se débarrasser de Saül, de le tuer. Et à chaque fois, il a refusé de le faire. Parce qu'il disait, Saül non seulement est une créature de Dieu, mais c'est celui que Dieu a choisi pour être roi. Eh bien, ces bonnes dispositions du cœur doivent aussi habiter dans notre cœur. Que Dieu nous aide à manifester ainsi son amour et sa grâce envers tous ceux qui nous entourent, aussi bien, je dirais, les membres de nos familles, les membres de l'Église, que tous les êtres humains qui nous croisent. Vous savez que nous vivons dans un monde où très peu de gens, malgré tout, connaissent la vérité de la parole de Dieu. Et nous avons la responsabilité, en tant que chrétiens, de manifester toutes les caractéristiques de Dieu, toutes les caractéristiques du cœur de Dieu. C'est pourquoi il est parlé d'homme selon le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu nous est révélé dans ce texte comme dans d'autres textes. Le chrétien, l'homme selon le cœur de Dieu, ce n'est pas seulement, comme nous l'avons vu la dernière fois, l'homme qui a foi en Dieu, l'homme qui écoute Dieu, l'homme qui obéit à Dieu, mais c'est aussi quelqu'un qui aime les autres et qui veut leur faire du bien comme Dieu l'a fait et le fait toujours envers chacun d'entre nous. Que Dieu nous aide et que Dieu nous bénisse et que Dieu nous guide dans cette mission, dans cette vie qu'il nous a donnée pour que nous puissions en faire profiter tous ceux qui ne le connaissent pas et aussi ceux qui le connaissent. Que Dieu vous bénisse.